Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. Figurez-vous que je suis à Visa pour l'image. Visa pour l'image, c'est un festival de photojournalisme. Il réunit chaque année en plein cœur de Perpignan, dans le sud de la France, des journalistes confirmés, talents en devenir ou monstres sacrés de l'image capturée. Parmi les très nombreux professionnels particulièrement accessibles à Visa, j'ai tendu mon micro à Alain Keller et Frédéric Noy. Pour dresser le décor de ce festival, un homme est incontournable. Il s'appelle Jean-François Leroy, c'est le directeur de cet événement qu'il porte avec passion et détermination depuis 31 ans.
http://atelier.rfi.fr
Jean-François Leroy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Visa pour l'image, qui fête cette année sa 31e édition à Perpignan. C'est donc un festival international de photojournalisme. Cette édition 2019 a-t-elle une saveur particulière ?
Honnêtement, pas pour moi, parce que chaque édition de Visa a sa saveur particulière. J'ai l'impression que c'est une édition qui est bien balancée, je sais pas comment dire, bien équilibrée entre les sujets un peu durs, les sujets pas durs, mais qui font quand même drôlement réfléchir. Et ouais, je suis assez content de l'édition. Je trouve que nos soirées sont rythmées, variées aussi. Donc, ouais, une édition, je pense, enfin, ce sera au public de faire son bilan après, mais je pense que c'est une édition bien équilibrée et assez réussie.
Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont aucune idée d'à quoi ressemble un festival de photojournalisme, et notamment celui de Perpignan, quelles sont ses spécificités ?
Ah ouais, ses spécificités, d'abord, c'est la taille du festival. Il y a quand même 24 expos, 6 soirées de projection. L'année dernière, on a frôlé les 200 000 visiteurs. On a eu près de 1300 photographes l'année dernière. Et on a tous les grands magazines internationaux qui produisent des sujets. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours de travailler avec des journaux qui produisent, pas seulement qui achètent de l'illustration, mais qui envoient des photographes sur le terrain pour traiter des sujets particuliers. Donc, c'est un festival assez énorme, et puis sa grosse spécificité, c'est quand même qu'il est entièrement gratuit. Ça, on n'en parle jamais assez, mais comparé à d'autres événements, je veux dire, avoir un festival de cette ampleur totalement gratuit, c'est pas évident.
Alors revenons aux propositions et aux nombreux photographes qui vous envoient chaque année des photos. Vous recevez quoi ? Des milliers de propositions ?
Oui, plusieurs milliers, oui. Cette année, j'ai pas compté encore complètement parce qu'on continue à en recevoir, mais ça doit avoisiner les 4000 propositions. Ça vient vraiment de tous les pays du monde et c'est dur de faire un choix.
Justement, comment est-ce qu'on choisit ? Est-ce que c'est un joli mélange entre la qualité technique, entre l'originalité du sujet, entre l'investissement du photographe ou de la photographe dans son sujet ?
C'est une combinaison des trois. D'abord, pour moi, c'est l'info que ça véhicule. Le fond prime toujours sur la forme. Ça, c'est primordial. Je ne fais pas un festival pour des artistes, je fais un festival pour des journalistes. Donc ce qui m'intéresse, c'est l'originalité de leur histoire, c'est bien évidemment la manière dont ils l'ont couvert. Après, en plus, vient s'ajouter la qualité photo. C'est vrai que quand vous réunissez l'intérêt du sujet, le travail en profondeur du photographe, et que vous avez une qualité technique formidable, je pense à Frédéric Noy, à Brian Sirton, à plein d'autres, vous avez la combinaison magique. Mais si vous voulez, je privilégierais toujours une exposition ou une projection qui amène une information, plutôt qu'un dossier techniquement très bien léché, mais qui ne m'apprend rien.
Est-ce qu'il y a une tendance ou des tendances lourdes, justement, vous qui organisez ce festival depuis plus de 30 ans, on l'a dit, des choses qui sont marqueurs de l'évolution du métier, à la fois dans la dimension technique et puis dans les sujets aussi?
Oui, mais bon, on peut pas ne... Quand on me pose cette question, je suis obligé de parler du passage de l'argentique au digital. Bien évidemment, ça a révolutionné la transmission des images. C'est-à-dire que il y a 30 ans, quand il se passait un événement à Beyrouth, le temps que le photographe aille à l'aéroport, trouve un passager pour prendre ses films, les ramène à Paris ou à New York ou à Hambourg, et puis après il fallait le développement, la duplication des tirages ou des diapositives, alors qu'aujourd'hui, ce qui se passe quelque chose là maintenant, dans 10 secondes, je l'ai sur mon bureau, vous voyez. Donc ça a révolutionné. Ça, c'est la technique. Grosse évolution, grosse révolution. Maintenant, au niveau de Je crois pas qu'il y ait de différence. Vous savez, Henri Cartier-Bresson disait toujours qu'il faut trois éléments pour réussir une image. C'est la tête, le cœur et les yeux. Il a jamais parlé de ses appareils photo. Et moi, l'appareil photo, si la technique est devenue exceptionnelle, maintenant vous avez des appareils, en pleine nuit, ils vous font des photos où vous voyez tous les détails, il n'y a plus besoin de flash, ils vous corrigent les contre-jours tout seul. D'accord, tout ça c'est très bien. Mais même si vous utilisez la caméra la plus sophistiquée, si vous n'avez pas ce sens du cadrage, ce sens de la couleur, ce sens de juste voir où va être la bonne photo, vous serez jamais un bon photographe. Ce que je veux dire, c'est que je connais des photographes qui travaillent avec un smartphone qui m'émeuvent énormément, puis je connais des photographes qui ont le dernier boîtier à 5 000 euros, et je trouve qu'ils font des trucs absolument inintéressants.
C'est économiquement difficile maintenant d'être photojournaliste, et pourtant il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent dans ce métier, et Visa pour l'image s'engage et souhaite accompagner les jeunes photojournalistes avec notamment un programme qui s'appelle Transmission. Expliquez-nous.
Ben, si vous voulez, d'abord le nombre de jeunes qui arrivent à Perpignan, j'en vois tous les ans, effectivement, des jeunes qui veulent embrasser cette carrière, alors qu'on sait très bien que économiquement c'est extrêmement difficile. Difficile parce que faut pas se le cacher, les budgets photos sont toujours le premier poste qu'on rogne quand on veut faire des économies dans un journal. Mais je pense qu'il y a quand même une réelle volonté de tous ces jeunes qui arrivent avec une énergie formidable, juste d'être témoin du monde, de témoigner le monde dans lequel on vit, de moi je dis toujours que ce sont mes yeux sur le monde. Je sais pas sans eux ce qui se passerait en Syrie, en Irak, au Yémen, au Venezuela. Donc oui, ils sont indispensables, même si économiquement c'est dur. Alors nous on a décidé, justement c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on fait un stage qui s'appelle Transmission. Mais ce stage, il est pas du tout, c'est pas un stage de photo, c'est pas un stage technique. On réunit un tout petit groupe, parce qu'ils sont jamais plus de 10, et on réunit ce groupe avec des photographes, mais des picture editors, des directeurs de la photo, et puis avec des gens qui travaillent avec des photographes. Cette année, on a un rédacteur qui a l'habitude de monter, c'est Jean-Philippe Rémy du Monde, qui a l'habitude, c'est un des rares journalistes, qui monte ses sujets en tandem avec des photographes. Et puis là, cette année, on a fait venir le professeur Anthony Feinstein, qui est un docteur, un psychiatre, psychologue, je sais pas comment on peut l'appeler, canadien, et qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Et donc, ces personnes venues d'horizons très différents donnent des clés à nos jeunes. C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait intervenir Olivier Laurent du Washington Post ou Nicolas Jiménez du Monde, qui leur explique comment présenter un dossier. Parce que si vous êtes photographe, si vous voulez soumettre votre sujet à Libération, au Monde ou Figaro, vous faites pas la même sélection. Si vous voulez travailler avec Match ou avec Géo, vous faites pas la même sélection. Donc leur faire sentir ça. Parce que moi, On parlait tout à l'heure de ce qui a dramatiquement changé dans ce métier depuis 30 ans. Il y a un maillon de la chaîne qui a quasiment disparu, c'est les picture editors. C'est-à-dire que avant, alors il y a encore un journal qui le fait très bien, c'est le National Geographic. Quand le National Geographic décide d'un sujet, c'est un trio. Il y a un photographe, il y a un rédacteur et il y a un picture editor. Le picture editor, il va accompagner le photographe pour lui dire au fur et à mesure de l'évolution de son sujet, ça c'est bien, mais là il faudrait qu'on le voit autrement. Il faudrait, vous voyez, qu'il donne des conseils, qu'il édite, qu'il choisisse les photos et qu'il aide le photographe à construire. Et ça, avec la disparition des agences, on n'a plus cette béquille, j'allais dire, qui était tout à fait indispensable. Et donc, on voit arriver sur le marché des jeunes qui sont complètement perdus, qui ont fait 30 ou 40 photos sur un sujet, qui techniquement sont bonnes, etc., mais qui ne racontent pas une histoire. Vous voyez, c'est là on en revient, c'est un grand cercle tout ça. Mais vous pouvez faire... l'autre jour, j'ai reçu un jeune photographe qui a fait un sujet vraiment bien sur... techniquement, il n'y a rien à dire, photographiquement, c'est intéressant, mais sur une île perdue dans le Pacifique. Pourquoi je ferais cette île perdue dans le Pacifique et pas une île perdue dans l'Atlantique ou en Méditerranée? Vous voyez ce que je veux dire? L'histoire, le sens de l'histoire, je trouve quand même, alors je vais me permettre un petit reproche, parce que je mets beaucoup d'énergie, je passe beaucoup de temps à essayer d'aider des jeunes photographes. Je suis souvent frappé par leur manque de culture photographique. Moi, si vous voulez, quand j'ai commencé dans ce métier, j'avais des livres de photos, ceux que j'avais pas les moyens d'acheter, j'allais les voler, ou au moins les consulter. Aujourd'hui, je veux dire, vous voyez tout, vous avez Internet, vous pouvez voir des sujets sur les sites de tous les journaux du monde. Et souvent, quand on demande aux jeunes c'est quoi tes photographes préférés, ils vont vous dire Nacho et Salgado, qui sont très bien. Mais il y a eu des choses avant Nacho et Salgado. Comment peut-on parler du mariage des petites filles sans connaître le travail de Stéphanie Sinclair? Comment peut-on parler des prostituées à Bombay sans faire référence à Marie-Hélène Marc? Comment faire les enfants au travail? Lewis Hine, dans les années 20 et 30, a fait un reportage extraordinaire sur les enfants au travail aux États-Unis. Si on ne connaît pas ses références, on va passer à côté de son sujet.
Et justement, avoir des références, exposer des passeurs, des vieux briscards, même parfois, c'est ce que fait le festival Visa pour l'image tous les ans. Et cette année, c'est des expositions et des rétrospectives Patrick Chauvel. Et également Alain Keller. Parlez-nous d'Alain Keller.
Alors Alain Keller, moi je le connais depuis très longtemps, et si vous voulez, je trouve que c'est un des photographes les plus incroyables de sa génération, et je trouve qu'il n'a jamais eu la reconnaissance qu'il mérite. C'est-à-dire que là, moi je vois des gens, même des pas tout jeunes, qui me disent « mais c'est formidable, comment on ne l'avait jamais vu avant, etc. etc. » Et donc, c'est exactement les trois axes que je veux dans mon festival, c'est faire découvrir des jeunes et les mettre en avant, consacrer des photographes reconnus, Brent Sirton, Pascal Maître, Frédéric Noy, ils ont absolument pas besoin de Perpignan pour être reconnus, mais là c'est les mettre en valeur. Et puis après, c'est faire redécouvrir des photographes un peu oubliés ou pas assez connus. Et je trouve qu'Alain Keller fait partie de cela. Alors c'est un garçon qui est très humble, très discret, très gentil, et donc il a peut-être pas su faire assez il a peut-être pas remué assez les bras pour se faire remarquer, quoi.
Tous les ans, depuis longtemps maintenant, il y a des propositions autour de l'environnement et de l'écologie à Visa sur l'image. Et cette année, il y a une exposition très forte, celle de Frédéric Noy, qui parle du lac Victoria.
Le lac Victoria, c'est le premier ou le deuxième plus grand lac d'Afrique. Et la pollution due, alors d'abord au réchauffement climatique, les berges sont envahies par ce qu'on appelle des jacinthes d'eau. Il y a de la pollution qui vient des différentes industries qui gravitent autour de ce lac. Et ça fait que une population qui vit autour de ce lac, de trois pays, ne peut plus pêcher, donc ne peut plus se nourrir. Et je veux dire, tout ça dans un silence, j'allais dire assourdissant, hein, on n'en parle pas. Mais là, c'est plus demain qu'il faut réagir, c'est aujourd'hui, parce que sans ça, qu'est-ce que vont faire ces gens? Ils vont tenter de fuir leur zone d'habitation pour trouver un endroit plus sûr, plus safe, plus sécure pour leurs enfants, pour leur famille. Et c'est, si vous voulez, on est dans un... Si on n'aide pas ces pays-là, forcément les habitants débarqueront, parce que à un moment, justement, avec tous les moyens, Internet, la télé, etc., etc., et la radio, les gens se rendent compte quand même de la différence entre l'extrême pauvreté dans laquelle ils vivent et l'extrême richesse dans laquelle on vit. Et la différence, si vous voulez, elle est de plus en plus inacceptable. Donc à un moment, c'est vrai qu'on arrive, je crois, au bout d'un système, et que avant, il y a 30, 40, 50 ans, on parlait de l'équilibre Est-Ouest, mais maintenant va falloir qu'on s'attaque au problème Nord-Sud, parce que sans ça, on va droit dans le mur.
Et justement, on est dans un monde d'images. La photo a-t-elle, en 2019 et dans le siècle là déjà bien entamé, encore la possibilité de faire bouger les choses et changer les choses?
Alors, ça, je vais être très clair. Je pense qu'il n'y a pas une photo qui a changé les choses. Je vous donne deux exemples récents. Il y a quelques années, la photo du petit Thaïlande sur une plage a été reprise dans le monde entier. On nous a dit plus jamais ça, etc., etc. Et du coup, il y a quelques semaines, on revoit dans une autre zone, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, on voit la photo de ce père qui s'est noyé avec sa gamine, et on a dit, mais plus jamais ça, plus jamais ça. Donc, je pense pas que la photo a le pouvoir de changer les choses. Maintenant, je suis persuadé que une photo peut influencer votre réflexion. Et si en sortant de visa pour l'image, si vous avez 1, 2, 10 personnes qui sortent de là avec une nouvelle, qui se disent quand même là, il y a des trucs à faire. Je sais pas, moi, je trouve qu'on manque d'engagement. Et l'engagement, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez adhérer à une association pour les chiens d'aveugle ou pour la paix en Palestine ou contre le réchauffement climatique, s'engager, être le minuscule grain de sable qui, avec d'autres grains de sable, va permettre de changer les choses. Et là, je pense que la photo, elle a vraiment son rôle à jouer.
Merci Jean-François Leroy.
Merci à vous.
L'atelier des médias.
Alain Keller, je suis photographe. J'ai une exposition à Visa pour l'image qui s'appelle Journal d'un photographe. Le titre est tiré d'un livre qui est sorti en octobre dernier et qui est une monographie de mon travail depuis mes premiers jours où j'ai appuyé sur le bouton de l'appareil photo.
Alain Keller, alors que je suis en train de faire cette interview, vous avez un appareil photo entre les mains. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors, l'appareil photo est toujours entre mes mains. Je l'ai toujours avec moi. C'est un compagnon de voyage. C'est un objet qui me sert et qui est toujours prêt. Je fais une description des photographes en disant que les photographes sont des chats. Et donc, ils sont toujours prêts. Ils sont toujours en train de regarder ce qui se passe autour d'eux. Et ils sont prêts à sauter sur la proie. Moi, ma proie, elle est plus pacifique puisque c'est les photographies que je fais dans la rue. Alors, j'ai un petit appareil. C'est un Leica. Je suis ce qu'on appelle un Leica depuis mes premiers jours. Il est petit, il est compact, il est assez discret et je ne peux pas, c'est totalement impensable pour moi de me déplacer sans lui.
Vous avez 74 ans, je ne dis pas de bêtises, et vous êtes toujours actif.
Ouais, j'ai l'impression que je suis de plus en plus actif, sauf pour le lumbago qui me donne des tracas maintenant. C'est justement parce que je suis trop actif.
Pour que les auditeurs se rendent compte, vous avez couvert la révolution en Iran, le soulèvement étudiant de la place Tiananmen en Chine, la famine en Éthiopie, la guerre au Liban, au Salvador, en Tchétchénie. Et puis, il y a eu un moment de bascule vers 1989, c'est bien cela. Expliquez-nous pourquoi ce moment de bascule.
J'ai travaillé tous ces événements, je les avais faits, enfin la plupart de ces événements, je les ai faits dans le cadre de l'agence Sigma, qui était une agence de presse, qui nous envoyait autour du monde. Enfin, moi, je voyageais énormément. Et puis, à la fin, j'ai quitté le système des agences parce que finalement, ce qui m'intéressait dans la photo, c'était de passer du temps sur un travail, de faire un travail de fond. Et là-bas, c'était pas possible. C'était pas dans l'ADN des agences. Économiquement, je pense que c'était pas très rentable. Donc, j'ai quitté le système des agences du News et avec des amis photographes, on a fait une première agence qui s'appelait Odyssée. Et là, j'ai basculé un peu dans une période couleur. Je me retrouvais avec des photographes qui étaient très, très bons en couleur. Moi, ma culture, c'était le noir et blanc. Eux, leur culture, ils avaient 10 ans de moins que moi, c'était la couleur. Je me suis mis à faire la couleur et je me suis mis à faire des sujets magazine et à travailler pour Géo, etc., pour ce genre de magazine. Et donc, je me suis déconnecté un peu de l'information. Et quand je suis allé à Berlin, en plus, on était deux photographes de la même agence, et là, il s'est passé quelque chose. Je suis vraiment passé à côté du sujet. On a mélangé en plus nos photos parce que il avait l'habitude de le faire, et ce qui est dramatique, parce que quand un photographe mélange ses photos avec l'autre, je crois qu'il perd une partie de son identité. Et j'ai loupé le coche. Et je m'en suis voulu. Alors ça correspondait aussi à une période où je ne faisais plus de news. J'étais passé à autre chose. Et je me suis aperçu que moi, ma raison de photographier, c'était quand même d'aller vers à la fois l'événement et vers les gens. J'étais dans l'événement, mais je l'ai loupé, ça a été, voilà. Donc ça m'a permis de réfléchir et de me dire, oh là là Alain, il faut que tu fasses attention, ton truc c'est pas de faire de la couleur, il faut revenir sur, et la raison pour laquelle tu as quitté les agences, à savoir un travail personnel, et ce travail personnel, il faut le faire en noir et blanc.
Donc depuis les années 90, vous vous intéressez notamment aux minorités, donc notamment les Roms, vous vous intéressez beaucoup aux déplacés, vous l'avez dit en noir et blanc, en plus avec de petits objectifs, plutôt du 50 mm, qui exigent d'être prêt, d'être très prêt.
Ouais, c'était Capa qui a dit pour que la photo soit bonne, il faut que vous soyez très près de la photo. Ça correspond à une vision. Le 50 mm, c'est un peu la vision de l'œil. Le 50 mm, c'était l'optique qu'utilisait Cartier-Bresson, dont le travail m'a fasciné. Le premier livre que je me suis acheté avec mes premières payes, c'était Le Monde de Cartier-Bresson, il y a très très longtemps, et c'était un très bon exemple à suivre. Et c'est la rigueur de ces cadrages, et puis bien entendu ce qui peut se passer à l'intérieur du cadre. Donc j'ai travaillé en agence, j'ai travaillé avec des téléobjectifs, avec des grands angles, etc. Mais j'avais toujours avec moi sur mon ventre un Leica avec un 35 mm ou un 50 mm et un film noir et blanc, ce qui m'a permis de rester en contact avec la photo que j'aimais et la photo qui a fait que j'ai voulu faire de la photo. Donc les travaux personnels, c'est que j'ai pu les faire qu'à un moment où je me suis retrouvé à la fois dans cette agence qu'on avait créée et où j'ai commencé, après avoir commencé à fermer la parenthèse couleur, que je n'ai pas vraiment fermé, puisque travaillant pour des magazines couleur, il a fallu que je continue. Mais le travail personnel, c'était pour moi une évidence que ça devait être en noir et blanc.
Vous dites très souvent que pour vous, la photo, c'est la mémoire, garder des traces. Et ça passe pour vous notamment par le numérique, puisque vous tenez un blog. Vous aviez au début commencé à bloguer en mettant une photo quasiment tous les jours de vos archives, de votre fond. Et l'exergue de votre blog, c'est « Que reste-t-il de notre mémoire si ce n'est une photographie ?» Pourquoi cette démarche ?
D'abord, le début du blog, c'était un pari parce que j'utilisais le numérique pour des commandes, mais je n'aimais pas le numérique. L'appareil que j'avais était trop gros, etc. Même si je reconnais que la technologie est extraordinaire. Et un jour, un ami m'a montré une application qu'on pouvait mettre sur le smartphone, que j'ai trouvée assez étonnante, qui était noir et blanc, carré, et que j'ai utilisée dans mes reportages, notamment sur les Roms, que j'utilisais à part de mon travail que je faisais en argentique. Et je montrais ces photos aux personnes que je photographiais, et ils disaient c'est beau, etc. Et ça leur plaisait beaucoup. C'était même plus la peine d'essayer de faire des tirages que j'aurais pas pu leur donner de toute manière. Après, je me suis dit, c'est assez étonnant ça, je vais essayer de faire un blog. On m'avait montré comment faire un blog, et j'ai fait le pari que je pouvais faire un travail personnel avec un smartphone pendant un an. Donc le pari, c'était voilà, une photo par jour pendant 365 jours, et j'écrivais en dessous. Au départ, c'était des fois des poèmes, des fois des extraits de chansons. Et puis ensuite, j'ai commencé à écrire ce que je pouvais ressentir sur les scènes où j'étais. Au bout d'un an, j'ai dit, bon, ben c'est fini, j'ai gagné mon pari que je m'étais fait, j'arrête. Et il y a des tas de gens qui m'ont dit, mais non, Alain, continue, on aimait bien voir ton blog. Alors là, j'ai décidé de reprendre le blog et de le faire en utilisant toutes mes archives d'une manière chronologique. J'ai gardé quasiment l'intégralité de tout mon travail depuis que je suis gamin, et j'ai commencé à numériser les photos. J'ai repris les photos pour commencer de mon tour du monde que j'avais fait. Je tenais un carnet, un journal de bord, donc j'ai repris les textes, et au fur et à mesure, voilà, je mettais chaque jour une photo, j'écrivais sur les photos, et puis ensuite il y a eu ma période Sigma, qui était relativement, enfin assez agitée puisque je n'arrêtais pas de bouger. Donc voilà, donc c'est devenu ce blog m'a accompagné et m'a permis d'abord, et c'est ça où le côté extraordinaire du numérique, c'est que on peut se faire son propre journal. Pourquoi aussi le journal ? Parce que je choisissais les photos que je voulais. Quand on travaille pour un magazine, on arrive et on donne une sélection de photos, et avec bien entendu nos photos préférées, mais ce ne sont pas forcément celles-là qui sont choisies, puisqu'il y a un directeur artistique qui lui fait la mise en page d'une certaine manière, etc. Là, j'étais maître de mes photos, j'étais maître de ce que j'écrivais, et ça c'était extraordinaire. Donc voilà, donc j'écrivais souvent des photos, mais aussi d'une manière décalée. C'était le hors-champ. Il se passe des choses en dehors de la photo, et puis aussi on a des pensées personnelles quand on est en voyage, etc. Donc voilà, le journal m'a servi à ça. Donc il a servi aussi, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, qui le voyaient, et quelque part, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que je faisais ce genre de travail. Et donc, voilà, je me suis fait mon autopromotion grâce au numérique que je n'aimais pas.
Et justement, on a l'impression que pour les jeunes maintenant, il y a de plus en plus déjà de jeunes photographes qui se lancent. Ils ont la main sur la diffusion numérique de leurs photos s'ils le souhaitent, et pourtant ils ont de plus en plus de mal à trouver des débouchés rémunérateurs pour les photos. Quel est le conseil que vous souhaiteriez leur donner ?
Alors le conseil, c'est très simple, c'est que si c'est des passionnés, la photographie, pour faire de la photographie, il faut être absolument passionné, faut adorer la photographie, et puis il ne faut jamais lâcher le morceau. C'est un processus qui peut prendre beaucoup d'années. Ils ne trouveront pas de travail tout de suite, c'est quasiment impossible parce que le marché c'est quand même assez réduit. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent ? Eh ben qu'ils travaillent comme serveurs dans des bars, qu'ils fassent des métiers où ils puissent gagner de l'argent, et ensuite avec cet argent, c'est exactement ce que j'ai fait moi en mon temps. Je ne connaissais personne dans la presse, je ne savais même pas si j'allais travailler dans la presse. J'ai travaillé pendant un an, quand j'étais jeune, je me suis acheté deux appareils photo, un ticket de train pour Istanbul, j'ai dit ciao, au revoir la compagnie, et j'ai voyagé. Et ben aujourd'hui, c'est toujours les mêmes recettes. On ne trouvera pas du travail tout de suite, il faut se débrouiller, donc voilà, il faut gagner sa vie. Ensuite, choisir des sujets, avoir des envies journalistiques ou personnelles d'ailleurs. Faut pas que ce soit forcément journalistique. Et puis les faire quand on travaille 3 mois, 6 mois. Et puis ensuite on part. Et puis voilà. Puis après on commence à montrer les photos. On vient à un visa pour l'image. On vient dans différents endroits. On commence à frapper aux portes des journaux pour montrer les photos. Les gens aiment ou n'aiment pas. Mais ça fait rien. Et ne jamais lâcher, c'est-à-dire on vous ferme la porte, eh bien il faut rentrer par la fenêtre, faut ouvrir une fenêtre, faut prendre du temps.
Merci Alain Keller.
De rien, merci.
Donc nous allons commencer la soirée avec la remise de plusieurs prix.
Qui dit festival de journalisme, dit prix et récompense entre pairs. Visa pour l'image ne déroge pas à la règle. Cette année, le Visa d'or de l'information numérique France Info, soutenu notamment par RFI et France 24, a été remis aux médias d'investigation français Disclose pour son enquête titrée « Made in France ». Un travail remarquable sur les ventes d'armes fabriquées et vendues par la France, servant à bombarder le Yémen.
Ce que je tiens à dire, c'est que c'est très important aujourd'hui, au-delà de la question de ce prix, que ce sujet de la guerre qui ravage le Yémen depuis plusieurs années, des ventes d'armes de la France à des pays comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, on m'a dit qu'un représentant du gouvernement français était présent dans la salle, soit mis sur le débat public. Il y a quelques jours, l'ONU, expliquer que cette enquête n'amenait pas de preuves. Il y a quelques jours, l'ONU a rendu un rapport sur la guerre au Yémen. Dans ce rapport, elle estime que la France, les États-Unis et l'Angleterre sont complices des possibles crimes de guerre qui se déroulent actuellement au Yémen. Les mots sont mis que le transfert d'armes vers ces pays, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, est potentiellement illégal. Le gouvernement ne peut donc plus dire que nous vendons des armes et qu'elles ne sont pas utilisées contre les civils.
Partons maintenant à la rencontre d'un photographe qui publie un travail qui ne laisse personne indifférent. Il est question d'écologie et de social. Frédéric Noy expose la lente agonie du lac Victoria. Le photographe français m'a raconté comment il en est arrivé à travailler sur ce sujet.
L'atelier des médias.
Je viens d'un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître, mais c'est à l'époque où il fallait faire son service militaire. Et je sortais de l'université, j'avais pas envie de faire le service militaire dans l'armée. Et effectivement, j'ai eu le choix, l'opportunité de faire dans le service civil. Et c'était comme attaché culturel à l'ambassade de France, attaché culturel adjoint à l'ambassade de France à Dar es Salaam, en Tanzanie. Donc quand l'université m'avait proposé ce poste, j'avais dit oui avec enthousiasme. Et c'était aussi un temps, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc je me suis précipité chez moi, j'ai ouvert un atlas et j'ai cherché pour savoir où était la Tanzanie parce que je n'en avais pas la moindre idée. Et c'est là que j'ai découvert que j'allais passer du temps en Afrique de l'Est.
Et vous avez ensuite bien acquis une volonté, un talent sur la photographie. Et il y a 7 ans, vous avez choisi de vous installer en Ouganda, à Kampala précisément. Et c'est là que vous avez eu envie de travailler sur le lac Victoria, c'est bien cela ?
Quand j'étais en Tanzanie, le lac était à l'horizon du pays. Je m'y intéressais pas trop, mais c'était comme l'éléphant dans la pièce. Vous pouvez pas ne pas vous en apercevoir. Après, je me suis installé en 2012 à Kampala, mais entre la Tanzanie et Kampala, j'avais fait plusieurs pays d'Afrique, et où j'habitais, le Tchad, le Soudan, et aussi le Nigeria. J'ai eu envie de retourner en Afrique de l'Est, notamment parce que c'est là que j'avais fait des sujets, photos que je jugeais les plus intéressants. Et je voulais pas retourner en Tanzanie que je connaissais, le Kenya, il y avait déjà beaucoup trop de monde, et restait l'Ouganda. Et en plus, en Ouganda, c'est là que j'ai fait mon premier sujet. Mon premier sujet photo était au bord du lac Victoria. C'était en 89 sur l'épidémie de sida. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des recherches. J'avais fait d'autres sujets sur les réfugiés en Ouganda, sur le cinéma dans des bidonvilles, sur une maladie dans le nord de l'Ouganda, mais c'était toujours pas sur le lac. Et je me suis dit, il faudrait quand même que je m'y intéresse un peu. Je suis tombé sur une phrase sur Internet qui avait été une phrase prononcée par le professeur Nyong'o, qui est le gouverneur de la province de Kisumu, qui est une province au bord du lac au Kenya, et qui disait cette chose: si dans 50 ans rien ne change, rien n'est fait, le lac sera mort à cause de ce que nous, humains, y déversons. Et ça m'avait paru effarant, parce que pendant ces 7 années à Kampala, je voyais le lac régulièrement, j'allais au bord du lac, et c'est une étendue, c'est une mer fermée, c'est gigantesque. Et en attendant le fait que dans 50 ans, éventuellement, cette mer gigantesque pouvait mourir, ça me paraissait une réalité difficilement concevable et un fait qui ne pouvait absolument pas arriver. Et je m'interrogeais en me disant, mais est-ce que l'éternité peut donc se finir? Ce que ce professeur gouverneur nous dit, c'est que l'éternité a une fin, parce que le lac Victoria, c'est l'éternité. Il a toujours été là pour les gens, pour les riverains, et il le sera toujours. C'est ce qu'on pense. Et ce questionnement autour de la finitude du lac qui semble être l'éternité m'interrogeait, et je me suis aperçu qu'il n'y avait jamais eu de travail sérieux. Sérieux, ce que j'entends par sérieux, c'est-à-dire un travail qui essaie de regrouper toutes les problématiques autour du lac, qui permettrait d'expliquer pourquoi un gouverneur pense que le lac peut mourir. Il y avait eu à une époque, au tournant des années 2000, un film qui s'appelait Le Cauchemar de Darwin, un film que j'avais absolument détesté, parce que je trouvais qu'il était éthiquement bancal, plein de raccourcis, et c'était un film qui s'intéressait à Mwanza, une des villes où je suis allé, donc une ville de Tanzanie, et qui généralisait la question de la perche autour de Mwanza en n'en voyant que des aspects tronqués et négatifs, ce qui ne correspondait pas à cette réalité.
À partir de là, vous, en tant que photographe documentaire, qu'est-ce que vous vous dites? Je vais me plonger dans le lac Victoria, alors pas au sens propre, mais en tout cas, je vais en faire le tour pendant des semaines, pendant des mois peut-être. Quelle est votre démarche à ce moment-là?
Alors, je vais m'y plonger, et pas qu'au sens propre, parce que des fois, j'y suis allé, pas qu'au sens figuré, mais j'y suis allé au sens propre. Ma démarche, c'est de faire des recherches et de me dire, il faut que je m'intéresse au lac sous le plus d'angles et d'aspects possibles. Parce que la dimension écologique ne peut pas être considérée hors des autres dimensions sociales, économiques, médicales, etc. Et je dis, je vais commencer à documenter le lac à Kampala et Entebbe, qui sont les zones où j'habite ou proches de moi. Et pour voir s'il y a une possibilité de faire ce travail par la documentation, tout le travail de documentation qui pour moi est capital dans la photographie sur des projets au long cours, j'identifie des endroits où j'identifie des questions. Et ce qui me permet d'identifier des endroits où je vais aller. Après, ça ne veut pas dire que je ne vais documenter que les endroits que j'ai identifiés, mais ça donne des directions que je dois explorer pour avoir une plus grande idée. Et je me dis, j'arrêterai au moment où j'aurai l'impression d'avoir une réponse à la question.
Alors, vous avez travaillé pendant 7 mois et vous vous êtes centré et vous exposez 25 lieux autour du lac, c'est bien cela?
J'expose 25 lieux autour du lac, il y en a eu plus. L'editing, c'est-à-dire la forme de l'exposition, comprend 45 photos. Et pour permettre au public de se figurer le lac et les différents endroits où je suis allé et de comprendre cette problématique géographique du lac, on a identifié les 25 endroits qui correspondent aux 45 photos. Il y a en fait 35 endroits, j'ai fait donc ces 7 mois, c'était 3500 km et 3 pays. Donc il y a évidemment plus d'endroits, j'aurais pu en faire encore plus. Au cours du reportage, j'ai quasiment bouclé le tour du lac qui fait plus de 3000 km mais à l'exception de 60 km. Qui sont les derniers 60 km qui unissent la frontière tanzanienne à la frontière kenyane.
Est-ce qu'il y a une photo dont vous souhaiteriez nous parler et que les auditeurs pourraient se figurer sans même la voir devant les yeux et qui résume un petit peu la situation désastreuse du lac Victoria actuellement?
une des photos qui résumerait le mieux, qui pourrait résumer, c'est compliqué, mais une auquel je pense, qui est la photo de cet homme qui est dans un dépotoir où toutes les ordures d'NTB se retrouvent et d'une partie de Kampala. Ce dépotoir est adossé au lac, c'est-à-dire qu'il est sur une pente légèrement descendante dans ce qu'on appelle les wetlands, c'est-à-dire les zones humides autour du lac qui traditionnellement sont le filtre naturel du lac. 80% de l'eau qui va sur le lac, et c'est de l'eau de pluie. Donc généralement, l'eau de pluie mettait des semaines à arriver au lac en traversant les zones humides, et pendant cette traversée des zones humides, elle était filtrée. Sauf que maintenant, comme on a détruit ces zones humides, notamment pour habiter, notamment pour faire de l'agriculture, et là, dans ce cas, pour une activité qui est une activité de tri sélectif. C'est-à-dire que c'est un tri sélectif sauvage. Tout le monde jette toutes ces ordures-là, et lui, son travail, c'est de trier les sacs et de les laver. Donc autour de lui, il y a des sacs blancs qu'il a lavés et qu'il va revendre, et à proximité des sacs, il y a l'eau et qui est vert très très sombre, qui est le colorant des sacs. Et ce vert très sombre, cette eau va passer lentement dans la zone humide dans laquelle il est et va se retrouver dans le lac. Et là où elle résume, c'est qu'elle montre deux aspects contradictoires ou deux événements qui sont en tension et qui expliquent pourquoi le lac meurt lentement. C'est-à-dire que cet homme-là est ce que j'appelle les soutiens de l'économie ougandaise, c'est-à-dire que c'est une économie qui marche plutôt bien, mais sur les gens viennent à Kampala notamment pour trouver du travail. On trouve n'importe quel travail. Et ce travail-là est un travail extrêmement difficile et qui est tout en bas de l'échelle sociale. Mais il est là parce qu'il a une famille à élever et à nourrir, et son activité lui permet de sauver sa famille et de se sauver, de survivre en tout cas, tout en engendrant une égratignure sur le lac. Une égratignure écologique qui est, avec des milliers d'autres, ce qui permet la lente agonie du lac et la pollution. Donc ça résume bien toute cette idée qui est que l'écologie est importante, protéger est important, mais on ne peut pas la considérer hors sol sans penser aux aspects sociaux et économiques des personnes dans cet exemple qui sont des riverains du lac.
Parce que justement, ce que rappelle aussi votre travail, c'est que cette zone s'est fortement développée économiquement, que l'introduction de la perche du Nil a eu des impacts économiques aussi positifs, on peut le dire, ça a développé cette région, ça a permis à des centaines de milliers, des millions même de familles de vivre, mais que peut-être ça s'est fait trop vite et que bien tout cela va peut-être un jour prendre fin, en tout cas. Est-ce que vous avez essayé ou est-ce que vous avez trouvé des solutions ou peut-être des exemples de gens qui s'engagent et essayent de faire bouger les choses dans cette zone?
Les seuls qui essayent de faire bouger les choses au stade où on en est, c'est pas des gens qui interviennent sur les blessures faites au lac, mais on en est plutôt au stade de la prise de conscience, d'explication et d'identification du fait qu'il y a un problème. Parce que si aujourd'hui vous allez dans un des trois pays et vous dites « je suis allé à Visa, j'ai vu un film, on dit que le lac Victoria est en une lente agonie », on va vous rire au nez, on va vous dire « oui, c'est encore une vision de français, d'européen, vous savez tout mieux que tout le monde, etc. » Parce que c'est très difficile à concevoir. Les 50 millions de personnes qui vivent autour du lac, dans les années 30, c'était 4,6 millions. En 90 ans, on est passé à 10 fois plus. Ils sont venus parce qu'ils avaient besoin de vivre et de trouver une activité. Et donc, toute la dimension écologique ou danger du lac, enfin, l'antagonie du lac, c'est quelque chose qui est hors de leur entendement. Non pas qu'ils n'ont pas envie, mais que c'est juste, ça ne fait pas partie de leur schéma de pensée pour survivre. Donc, c'est compliqué de trouver des gens qui vont essayer de s'attaquer aux phénomènes qui mettent en danger le lac, ou de trouver des personnes qui essaient de trouver des solutions à des problèmes dont ils n'ont pas conscience ou qui ne correspondent à rien dans leur existence. Les seuls qui peuvent avoir une idée de ça, c'est les scientifiques. J'en ai rencontré notamment au Kenya. Pourquoi au Kenya? Parce que je pense que le Kenya, il a 6% du lac et c'est celui qui est le plus touché visiblement. À la fois par la problématique des jacinthes d'eau, à la fois par la surpêche, à la fois par la pollution, mais c'est des gens qui pensent. Et quand ils essayent d'expliquer que là, il y a vraiment un problème, ils se heurtent aussi à la dure réalité politique de personnes qui ne voient pas concrètement devant leurs yeux où est le danger. Vous voyez, c'est pas comme les incendies en Amazonie. Quand vous dites, oui, ben, il y a des incendies en Amazonie, vous les voyez, c'est une évidence. Quand vous parlez du lac et de la lente agonie, le mot important dans la lente agonie du lac, c'est lente. C'est pas agonie, c'est lente. C'est-à-dire que c'est un processus tellement lent qu'il en devient imperceptible, voire invisible. Donc comment...
Un peu compliqué pour un photographe, justement. Si c'est lent, difficilement perceptible, pour en le rendre compte de façon très, très précise, ça doit être compliqué pour vous, non?
Mais c'est là où intervient la notion de temps. pour moi de prendre le temps de le faire et surtout de lieux. C'est-à-dire que pour mettre ce long processus en exergue, c'est pour ça que je fais autant de lieux différents et pour montrer en quoi les uns et les autres agissent et sont en interrelation. C'est ça qui manque aux gens sur le lac. C'est-à-dire que quand vous parlez à un pêcheur, tout ce qu'il voit lui c'est sa pêche et son petit port de pêche. Quand vous parlez à des agriculteurs, ce qu'ils voient c'est leur champ. Quand vous parlez à des gens qui travaillent en industrie ou qui nettoient les sacs plastiques, tout ce qu'ils voient c'est autour d'eux. Donc quand vous dites vous mettez le lac en danger, le lac c'est 68 000 km², c'est la taille de l'Irlande. Donc si je vous dis à vous, vous êtes en train de mettre en danger l'Irlande parce que vous êtes en train de jeter votre mégot de cigarette, ça vous semble quand même hors de propos. Sauf que moi la différence par rapport à tous les gens que j'ai rencontrés, c'est que j'ai fait moi-même toutes ces différentes choses et que je vois quelle est la synergie négative qui naît de toutes ces situations. Ce que voient des scientifiques.
Vos photos du lac Victoria, à qui sont-elles destinées ?
Je les pose sur la table. Elles sont destinées aux gens qui ont envie de les voir, qui ont envie de s'y intéresser. Un des principes pour moi qui est important quand j'entreprends ce genre de travail, c'est que je fais confiance à l'intelligence des gens et à leur désir de curiosité et à leur bon sens et à leur envie de découvrir. Donc, ma responsabilité est de proposer quelque chose. Et de proposer quelque chose, non pas qu'il soit objectif, parce que je pense pas que l'objectivité existe. À partir du moment où on est dans une situation, on a brisé l'objectivité de la situation, mais de proposer des sujets qui sont honnêtes, qui sont faits avec honnêteté, au sens où ils sont inattaquables soit sur le contenu, soit sur ce que j'ai vu. Si on n'est pas d'accord, c'est un droit que je laisse ouvert. Enfin, on est en démocratie, les gens peuvent très bien ne pas être d'accord ou ne pas aimer ou trouver que le sujet n'est pas intéressant. Mais en tout cas, je le propose et il est pour tout le monde, pour qui veut s'y intéresser.
Alors vous le faites avec passion, honnêteté, détermination. Est-ce que les décideurs politiques de la région du lac Victoria ont vu vos photos ou est-ce que certains vous ont déjà fait des retours peut-être ?
C'est trop tôt pour qu'ils l'aient vu. Un des problèmes aussi, c'est que moi je suis appartenu à une sphère francophone, bien que j'ai vécu très longtemps dans la sphère anglophone en Afrique, et je suis pas certain que ça soit un sujet qu'ils aimeraient. Au sens où, indirectement, ça met en cause quelque chose. C'est comme ça qu'ils risquent de le prendre. Pour des scientifiques ou les gens qui parlent, le gouverneur, je pense qu'il serait ravi, parce que ça lui permettrait éventuellement de s'appuyer sur quelque chose. Pour les politiques, je pense qu'ils ont d'autres soucis en tête. C'est aussi ça, un des challenges, c'est que, autour du lac, comme dans beaucoup de pays, l'écologie n'est pas le premier souci en réalité. Le premier souci, c'est de survivre, c'est de faire tourner son pays, c'est de faire en sorte que ça fonctionne, qu'il y ait la paix, etc. Après, faire en sorte que le lac ne meure pas quand on a l'impression que de toute façon, il n'y a aucune raison qu'il meure et que il sera éternel, il faut déjà être d'accord sur le constat. Et je ne suis pas sûr que le constat soit facile à conceptualiser pour beaucoup de gens et notamment les politiques. Non pas qu'ils soient plus bêtes que les autres, mais que c'est un fossé grand à franchir dans la réflexion.
On parle de plus en plus du journalisme d'impact. Est-ce qu'une exposition à Visa pour l'image donne plus de poids à votre travail ?
Indéniablement. Visa, c'est le plus grand festival de photojournalisme au monde. Et c'est, moi, je le considère comme le plus grand magazine gratuit à ciel ouvert. En ces temps où on nous rabâche tous les ans la crise de la presse, etc., que chaque année Jean-François Leroy et Visa permettent aux gens gratuitement d'ouvrir beaucoup de fenêtres sur le monde. Parce qu'il y a ces fenêtres des expositions, il y en a 24, mais il y a aussi tous les soirs les projections qui permettent d'ouvrir ou d'ébaucher des passerelles. C'est important. Et oui, c'est un impact parce que être présent à Visa, c'est un peu comme une AOC. C'est qu'il y a un label, pas un label qualité, ça veut pas dire qu'on est forcément le meilleur, mais ça veut dire que ce qu'on a fait, ou sa démarche, ou ce qu'on est, ou ce qu'on revendique, ou ce pourquoi on vit, ou ce pourquoi on travaille, est reconnu. À une échelle plus ou moins grande, peu importe, mais il y a quelque part c'est reconnu, et du coup c'est une portée, Visa décuple la portée de son travail, et permet à des dizaines de gens de le voir. J'ai la faiblesse de croire que on ne sait jamais qui regarde son travail. C'est-à-dire que des fois, il suffit d'une personne qui soit, je ne sais pas quel serait son métier, son statut ou sa position, mais que ça peut déclencher quelque chose. Et c'est aussi le pari que prend Visa inconsciemment. Et je trouve que c'est un pari digne.
Y a-t-il des photographes africains que vous avez croisés en Afrique centrale ou ailleurs, dont vous appréciez le travail et où les talents sont-ils encore à éclore ?
Les talents sont plus encore à éclore, c'est-à-dire que c'est un peu comme l'écologie, c'est qu'ils partent de loin et c'est sa fourmi de photographes, hommes, femmes, qui ont envie, qui ont le désir. Et qui se coltine la réalité. Quand je dis se coltine la réalité, c'est que c'est extrêmement compliqué de vivre de la photo, déjà d'avoir le matériel, d'avoir une connexion internet qui vous permet d'être en contact avec la planète photo hors les frontières ougandaises ou hors les frontières africaines, parce que c'est ce qui est indispensable à toute cette génération de jeunes photographes africains, c'est qu'ils ont besoin d'être connectés et de voir ce que font les autres et de comprendre qu'il y a un monde ailleurs et qu'ils en font partie et qu'ils doivent s'en nourrir. Et souvent, ils ont du mal à le faire, non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais c'est déjà parce qu'ils ne savent pas que c'est, de mon point de vue, quelque chose d'indispensable, mais aussi qu'ils n'ont pas tout bêtement le moyen technique. Je veux dire, pour nous, avoir une connexion Internet, un ordinateur, ça, c'est vraiment un besoin primaire qui est quasiment satisfait. Maintenant, on croit que c'est un besoin primaire et tellement primaire que presque un droit. Mais pour de jeunes photographes en Afrique, c'est la difficulté est déjà d'avoir les moyens de le faire, d'avoir et après de connaître l'information de savoir qui regarder. Sur toutes ces années à Kampala, j'ai participé à des programmes de mentor, c'est-à-dire d'accompagner de jeunes photographes ougandais et ougandaises pour justement essayer de les guider, pas de mon point de vue, pas tellement techniquement, mais vraiment plus sur l'approche qu'ils ont de leur métier, sur la conceptualisation de leur démarche et sur l'idée qu'ils doivent se brancher au monde extérieur s'ils veulent avoir une chance d'exister, parce que ils en ont les qualités et ils sont une vraie promesse. Le problème, c'est que c'est des promesses qu'il faut faire éclore. Et là, ça peut être des programmes intéressants à monter pour la communauté européenne, par exemple, pour l'Institut de France, pour vraiment soutenir, mais sur le long terme.
Il y a de plus en plus de journalistes et de photojournalistes qui s'intéressent à l'écologie, à l'environnement. Quels conseils auriez-vous à donner, justement, à des jeunes photographes qui souhaitent travailler sur cette thématique particulière ?
Prenez le temps de le faire. Documentez-vous beaucoup pour savoir de quoi vous allez parler. Quand on travaille sur ce genre de sujet, même sur tous les sujets, à mon avis, sur les sujets documentaires, il est important de s'oublier, d'y aller sans a priori, de vraiment baser son approche, son propos sur des faits. C'est du journalisme aussi, c'est ça le journalisme pour moi. C'est que on part de faits avérés ou d'hypothèses qu'on pose et qu'on essaye honnêtement de prouver et de ne pas avoir la honte de les infirmer. Donc de partir de ça, et ça, le carburant de tel projet, c'est le temps. C'est de prendre le temps de les faire. Le temps, ça ne veut pas forcément dire enchaîner un mois ou deux, on peut faire un bout par là, reprendre derrière, faire un travail qui nous permet d'être payé et continuer un autre travail, mais d'avoir de la consistance et de la persévérance. Et surtout de pas trahir ses valeurs et sa démarche photographique.
Mais la liberté de temps, c'est une richesse pour le photographe dans le monde actuel.
Il y a un livre de Sénèque qui s'appelle « De la brièveté de la vie » et que j'ai lu quand j'étais en Tanzanie. À l'époque, je travaillais dans les villages et où il faisait nuit à partir de 7h, j'avais du temps pour lire. Et donc pour moi, le message dont je me souviens, là je le résume et le paraphrase, c'est que souvent on pense qu'on n'a pas le temps de faire les choses, mais en réalité, et que la vie est trop brève, mais en réalité on a tout à fait le temps de les faire, il suffit de mettre de côté ce qui n'est pas indispensable et prioritaire. Donc même sur un projet long, oui le temps est un luxe, mais c'est un luxe qui n'est pas hors de portée, c'est un luxe qu'on s'octroie à soi-même, et on a souvent la faiblesse de penser que le temps est une denrée qui ne nous appartient pas, mais qui passe comme ça hors de nous, alors qu'en réalité, il faut apprendre à essayer de le dominer, et notamment sur des projets longs.
Merci beaucoup, Frédéric Noy.
Merci à vous.
C'est tout pour cette semaine dans l'Atelier des médias. Un grand merci à Simon Decreuse qui a réalisé l'émission que vous venez d'entendre. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous proposerai la semaine prochaine de poursuivre ces rencontres avec ces journalistes qui ont choisi de raconter le monde par la photographie. D'ici là, partagez notre podcast où nous vous proposons nos émissions en version longue. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Atelier des médias.